RFI, 7h42, en temps universel. Tout de suite, les sports. Avec vous, Antoine Grenier, du football. Fin de parcours pour le champion en titre de la CAN U17.
Le Sénégal éliminé hier soir aux portes des demi-finales. Les Lyonceaux battus par la Côte d'Ivoire. 5 tirs au but à 3 à l'issue d'un 0-0 entre les deux nations. Un peu le symbole de la CAN pour les Sénégalais. Une des meilleures défenses du tournoi, mais qui doivent encore progresser en attaque selon leur sélectionneur, Papi Brahima Faye.
Notre chantier, c'est vraiment l'attaque. Les combinaisons en attaque, les jeux de finition. On a appris aux jeunes, démarrer les jeux par derrière, créer les appels de balle vers l'avant. Tout ça, maintenant, ils le comprennent. Mais malheureusement, le chantier reste l'attaque. Et donc, puisque nous sommes toujours en formation, ils ont l'âge de la formation, c'est des moins de 17 ans. Donc, le travail continue. Nous allons appesantir le travail dans l'aspect offensif, essayer de scorer et de marquer des buts. Nous sommes dans un processus de formation et nous continuons dans ça. Défaite ou pas défaite, Côte d'Ivoire ou un autre pays, nous restons jeunes et nous sommes dans notre logique formatrice. Et très sincèrement, je ne suis pas déçu. Ce que j'ai aimé, c'est la production des deux côtés, des enfants de la formation, que ça soit ivoirien, que ça soit sénégalais.
Papi Brahima Faye avec Mathias Reynal. La Côte d'Ivoire qui affrontera le Maroc mardi en demi-finale. En attendant ce samedi, deux matchs de barrage pour la Coupe du Monde U17. Ouganda-Gambie à 16h TU et Égypte-Angola à 19h temps universel. Les vainqueurs iront au Mondial.
Et en cyclisme, pas de changement en tête de la route de l'Est international en Côte d'Ivoire.
La passe de 3 pour Daniel Bilschmann. Déjà vainqueur des deux dernières étapes. Il a récidivé à Abengourou. Son secret, la discipline d'équipe, mais aussi un meilleur matériel. Molamine Sissavoné.
Pour son talent avéré, Daniel Bichelmann, vainqueur du Tour du Faso en 2021, n'est pas n'importe quel athlète, dit d'entrée de jeu son directeur technique. Mais Jean-Jacques Lou admet que le matériel de son équipe est un cran au-dessus.
C'est surtout au niveau des roues. Peu d'Africains ont des roues carbone. Alors, on sait que la roue, ça apporte énormément à la réussite du coureur.
Le coureur Olivier Kouamé, capitaine de la SOA Club Ivoirien, constate avec acuité le contraste entre le matériel de l'équipe suisse et le leur.
Nous, on a encore sur les vélos de 2004. Pourtant, aujourd'hui, ils ont des vélos de haut niveau, 2025 déjà. Et ils ont des roues en carbone, le vélo même en carbone et les vrais guidons. Lorsqu'ils mettent leur rythme, il faut avoir encore des vitesses réserves pour pouvoir venir à leur niveau. Mais on n'a pas ces gens de vitesse-là.
C'est donc à juste titre que le coureur suisse contrôle la course aux grandes dames des clubs africains, quelque peu défavorisés. Jean-Jacques Lou.
On voit des petites équipes qui ne sont peut-être pas si bien équipées. Je regardais tout à l'heure des poignées de frein, il y a eu des chutes, c'est un petit peu du bricolage. Mais par contre, il y a aussi des Africains qui sont avec des bons vélos, ça il faut le dire.
Olivier Kouamé et ses coéquipiers, qui en appellent au ministère des Sports et à la Fédération, voudraient avoir du matériel de meilleure qualité pour une pratique de la petite reine tout aussi meilleure. Molamine Sissavané, Abengourou, RFI.
La route de l'Est internationale qui se conclut ce samedi à Bondoukou.
Merci Antoine Grenier, bonne journée.
RFI Matin.
Et alors qu'en Turquie hier, Ekrem İmamoğlu a comparu dans 3 procès différents, l'opposition continue de se mobiliser pour dénoncer l'arrestation, l'incarcération du maire d'Istanbul, rival d'un Recep Tayyip Erdogan et de son régime en pleine dérive autoritaire. Près de 1900 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement et la répression des manifestations a aussi ciblé des journalistes. Une chaîne de télévision turque proche de l'opposition a ainsi été condamné à 10 jours de suspension de ses programmes pour incitation du public à la haine et à l'hostilité. Et ça va même plus loin. Dans Menace sur l'information ce matin, le récit de Bülent Kilic. Il nous raconte son arrestation, sa détention avec Julien Chavanne.
Le 24 mars dernier, Bülent Kilic est encore dans son lit quand la police frappe à sa porte.
À 6h du matin, la police a sonné à ma porte. Le premier policier qui m'a parlé, il était poli, mais il ne connaissait même pas la raison de mon arrestation. Ils ne m'ont rien dit. Mais moi, je connaissais la raison. Et puis, quand je suis allé au commissariat, on m'a enfin donné un motif officiel. Ils m'ont dit que j'étais allé à la manifestation en tant que manifestant, en tant que participant.
Ce photojournaliste turc de 46 ans est reconnu dans son pays et à l'étranger. Récompensé du prix Pulitzer en 2014, il a par exemple travaillé pour l'AFP, l'agence France Presse. La veille de son arrestation, il couvrait la manifestation interdite devant la mairie d'Istanbul. La police ne pouvait pouvait ignorer qu'il était là pour son travail. C'est donc sous un faux prétexte qu'il est arrêté avec sept autres journalistes.
Ensuite, ils nous ont emmenés au sous-sol du commissariat de police. Ce n'était pas facile car on m'a obligé à dormir par terre, à côté des toilettes. Pendant une nuit, c'était assez pénible pour moi. Ensuite, nous sommes allés à la première prison, puis à la deuxième, et le quatrième jour, on était libérés.
Libéré grâce à la pression internationale, Bulent Kilic n'est pas retourné prendre des photos des opposants au pouvoir turc.
Non, je n'y vais pas. Je n'y suis pas retourné. Je ne suis pas revenu parce que je veux faire attention où je mets les pieds. Vous savez, parce que nous sommes dans un autre monde maintenant. C'est un nouveau monde. Le pouvoir a franchi une nouvelle étape. Et moi, je dois être prudent parce que je dois travailler. Ce n'est pas agréable. Ils m'ont arrêté pendant 4 jours. J'ai perdu 2 contrats. Et vous savez, c'est pas facile pour moi. Mais travailler en zone de guerre est plus facile pour moi maintenant que de travailler à Istanbul. Au moins, je sais que personne ne viendra m'arrêter pour me dire « Hey, tu viens prendre des photos ?»
Bulent Kilic est parti pour le Liban, puis la Syrie, sans savoir s'il pourra un jour exercer son travail en Turquie sans risquer la prison.
Menace sur l'information avec Julien Chavanne. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquelorem.
En Côte d'Ivoire, le diplomate de carrière Essi Amara, dernier ministre des Affaires étrangères de Félix Houphouët-Boigny, s'en est allé cette semaine à 82 ans. En quoi les hommages qui lui sont rendus se distinguent-ils des convenances habituelles, souvent teintées d'hypocrisie, qui saluent chaque disparition de personnalités publiques ?
Nul ne peut exclure que certains de ces hommages puissent manquer de sincérité. Mais Essi Amara était un diplomate d'envergure, d'une redoutable efficacité et surtout d'une discrétion et d'une humilité rares à un tel niveau. Sous toutes les latitudes, il a su brillamment représenter son pays. Il a même signé quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du continent, notamment en pilotant de 2001 à 2003 la mutation de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine. Les colonnes d'apothéose dressées en sa mémoire sont donc méritées, particulièrement dans le contexte actuel d'incertitude généralisée avec tous ces dirigeants qui piaffent et vocifèrent, persuadés de faire la preuve de leur force ou de leur puissance en détraquant l'économie mondiale ou en détruisant le fragile équilibre du monde. Où sont donc dans la diplomatie africaine les Essi Amara d'aujourd'hui, si tant est qu'il y ait encore une diplomatie africaine? Aucun pays ne peut exister aux yeux du reste du monde sans une diplomatie solide avec un vivier de diplomates de qualité comme en avait constitué Félix Houphouët-Boigny, même si en plus de 30 ans de pouvoir, il n'a eu que 3 ministres des Affaires étrangères.
À quoi tenait donc cette durée de vie relativement longue de ces ministres ?
La diplomatie est un métier complexe dans lequel la stabilité peut être gage d'efficacité. Durant les 5 premières années d'indépendance, le président assumait lui-même cette fonction, ensuite confiée à Arsène Huchère Assouan, brillant avocat qui avait été son attaché de cabinet alors qu'il était ministre d'État dans le gouvernement français. En 1977, Huchère Assouan est remplacé par l'ambassadeur à Londres, Siméon Aké, à qui succédera Essi Amara en 1990. À la mort du vieux en décembre 1993, il sera reconduit par Henri Conan-Bédié jusqu'au coup d'État de 1999. En Côte d'Ivoire, la diplomatie était un corps d'élite. Même lorsqu'ils ont par la suite assumé d'importantes autres fonctions, les grands diplomates ont toujours revendiqué leur rang d'ambassadeur comme un titre de noblesse. Dans l'administration de nombreux pays d'Afrique, le ministère des Affaires étrangères était de ces départements qui passaient autrefois pour des sanctuaires de compétences. Au même titre que l'économie, les finances, le plan, il fallait pour y officier justifier de compétences qui ne pouvaient s'improviser et certains postes importants n'étaient occupés que par des fonctionnaires qui avaient brillamment gravi tous les échelons. Avec le népotisme, le régionalisme, le favoritisme politique et l'incompétence qui va avec, ces administrations, presque partout, ont été peu à peu dépréciées.
Les cadres valables ont-ils pour autant disparu partout ?
Non, heureusement, mais à force d'arbitraire et de complaisance, bien des carrières ont pu être contrariées, poussant plus d'un au découragement, à la démotivation. L'excellence a fini par sombrer, les pistonnés et autres imposteurs éclipsant les meilleurs. Voilà comment un métier exigeant, sérieux et correction en permanence en est venu à être livré aux champions de la facilité et de la gloire à bon marché, se délectant de l'illusion de grands voyages, de réception de paillettes et autres projecteurs éclatants. Et les diplomates dans bien des pays sont devenus des monstres de maladresse, bafouant au quotidien les convenances diplomatiques les plus élémentaires. Par la distinction et l'exemplarité qu'ils affichaient en toutes circonstances dans l'exercice de leur métier, les diplomates de la 30 Dessy Amara suscitaient bien des vocations. On regrettera que la plupart n'aient pas laissé des écrits sur les grands moments de l'Afrique indépendante dont ils ont été témoins ou acteurs. Pour reprendre l'image d'Amadou Ampateba comparant à une bibliothèque qui brûle, tout vieillard qui meurt, il faut juste rappeler que les modèles africains de sérieux et de rigueur doivent être gravés avant que la superficialité ne vienne tout submerger.
Jean-Baptiste Placat, merci beaucoup. Bientôt 8h en temps universel et bientôt la fin des RFI Matin. D'abord, comme chaque samedi, on retrouve Lucie Bouteloup et ses rencontres avec les amoureux de la langue française. À la découverte de leurs mots fétiches, c'est un mot, une histoire.
La vraie phrase philosophique, c'est celle de Leibniz qui dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Ça, c'est le principe des principes.
Helléniste, philosophe et directrice de recherche au CNRS, Barbara Cassin a fait des langues et du langage son terrain d'étude et sa passion. C'est aussi la 8e femme à siéger parmi les immortels et à ce titre, elle a donc participé à la rédaction de la dernière édition du Dictionnaire de l'Académie française. Et pour cet épisode, elle a choisi de nous parler d'un mot qui décrit une chose et son contraire.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Il y a un mot que j'adore, c'est le mot « rien ». Je l'adore parce que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que « rien », l'étymologie fiable, certaine, c'est « rem », c'est-à-dire « chose » à l'accusatif.
Ça vient du latin ?
Oui, « res »,« rei », »,« chose ». Et ça a donné « rien ». Donc « rien », ça veut dire quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. Et peut-être celui qui l'a vraiment mis en scène et en lumière, c'est Raymond Devos.
Si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de rien. De rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup. D'accord. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher.
Ce qui est amusant aussi dans ce mot, c'est justement ce glissement de sens de comment on est passé de la chose à la négation, qui veut dire pas.
Oui, mais alors, vous voyez, quand vous dites « ah non, il n'y en a pas », vous parlez d'un pas. Quand vous dites « je n'y vois goutte », vous parlez d'une goutte. Tout ça, c'est des choses. C'est génial. Et quand vous passez au latin, il y a une autre manière de dire rien, c'est « nihil ». « Nihil », eh bien, ça veut dire « rien », la négation, « n », « ne », « non ». Et puis « hilum ».« Hilum », c'est le petit bout noir de la fève. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on nie. Ça, je trouve ça génial. Il y a, au fond, deux manières de nier. Une manière de nier grâce à un terme positif et une manière de nier en niant quelque chose de positif. « Ne pas », on met un « ne » devant. Mais avec « rien », ben, vous pouvez dire « rien, c'est rien ». Ben, même quand vous le prononcez, vous dites quelque chose. Et je crois que l'impossibilité de maintenir une négation pure, surtout quand vous en parlez, c'est l'essence même de l'intérêt du rien.
Et alors, qu'est-ce que ça serait que le contraire de rien ?
Quelque chose, c'est-à-dire rien.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot « rien » peut être utilisé comme un pronom indéfini avec une valeur positive dans des emplois soutenus pour quelque chose, quoi que ce soit, ou bien avec une valeur négative, pour aucune chose, nulle chose. C'est aussi un nom qui définit le néant ou une chose de peu d'importance, une bagatelle.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française.
Barbara Cassin, qui a d'ailleurs récemment publié le roman graphique La Nuit au Louvre aux éditions Flammarion. RFI Matin, c'est presque fini. Un peu de musique avant de nous dire au revoir et du beau monde avec Sean Kuti, le groupe de son père Fela, Égypte 80. Ajoutez à cela la rappeuse zambienne Sampa the Great. Et ça donne le titre Emi Aluta dans la sélection du mois des RFI Musique.
1, 2, 3, 4.
Should be at the door. I keep it going till the song is done. Y'all see, nothing is over the beat of the drum. Should be at the door. I keep it going till the song is done. Y'all see, nothing is over the beat of the drum. I'm dealing with violence, dealing with pawns, dealing with hate. Insufficient guidance, I lead as a pawn, feeding a fig. The seed of the armor, securing my future. Hustle, I wake, I hustle. I shake, I bustle, one of the greats. I did the desperate, oh, yeah. Let me refresh you, though, yeah. When I was watching, she stepped on my head. There was no kindness, I'm taking a stand. I'm standing on business, this is the easy city to go on. Wally, oh, I become the beat of the drum.
Sean Kuti, Égypte 80 et Sampa the Great sur le titre Emi Aluta et la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez bien sûr sur musique.rfi.fr. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, une fois n'est pas coutume, c'est Nemo en piste que vous retrouvez pour RFI Matin à partir de 5h, temps universel. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de la radio du monde.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la guerre en Ukraine et aux menaces de la Russie, l'Europe veut se réarmer. Comment mobiliser les industries de défense ? Comment financer ces dépenses imprévues en pleine guerre commerciale ? Et alors que les tensions montent avec l'allié américain, on en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
La Mastroc, Jarring Effects et RFI Talent présentent
Longue plaine bordée d'étoiles
Zar électrique.
Accompagné par les génies du Niger.
Découvrez Koyo, le premier album du trio franco-marocain de Marseille.
Les hommes, chéris les femmes, souris aux genoux, sans étagère.
Disponible en vinyle, CD et sur toutes les plateformes.
Ombre qui danse, tous unis dans la transe, tombent les masques et cadence. Mise en silence, tourne-vol et avance, cherche les cieux dans les sens.